Chapitre 37. Amour et orgueil. Un cri de terreur poussé dans la chambre m'avertit que j'avais été entendu. Pendant un moment, il ne se passa rien. Puis la voix de l'enfant m'arriva, impétueuse et perçante. « Ouvrez les volets, maman! Je vous ai dit qu'il arrivait! Je veux le voir !» Il y eut un intervalle d'hésitation avant que la mère ouvrit les volets. Elle s'y décida enfin. Je l'aperçus obscurément à la fenêtre, avec la lumière derrière, et la tête de l'enfant, visible juste au-dessus de la partie inférieure du chambranle de la fenêtre. La bizarre petite figure sautit rapidement, comme si ma fille volontaire dansait de joie. « Puis-je en croire mes sens ?» dit Madame Van Brandt. « Est-ce réellement Monsieur Germaine ?»« Comment allez-vous, nouveau papa ?» cria l'enfant. « Poussez la grosse porte et entrez. Je veux vous embrasser !» Il y avait un monde de différence entre le ton froidement ambigu de la mère et le joyeux accueil de l'enfant. M'étais-je imposé trop subitement à Madame Van Brandt ? Comme toutes les personnes douées de sensibilité, elle possédait ce sentiment inné du respect de soi-même qui n'est que de l'orgueil sous un autre nom. Son orgueil se trouvait-il blessé à la seule idée d'être vu par moi, délaissé aussi bien que trompé et ignominieusement abandonné comme un fardeau inutile à des étrangers par l'homme pour lequel elle s'était sacrifiée et avait tant souffert? Et cet homme était, de plus, un voleur fuyant les patrons qui l'avaient trompé. J'ouvris la lourde porte de chêne en craignant que ce ne fût là la véritable explication du changement que je venais de remarquer en elle. Et mes craintes se confirmèrent lorsqu'elle ouvrit la porte intérieure qui conduisait de la cour dans le salon et qu'elle me fit entrer. Lorsque je lui pris les deux mains et que je l'embrassai, elle détourna vivement la tête de façon que mes lèvres ne touchèrent que sa joue. Elle rougit profondément et ses yeux ne quittèrent pas le sol, tandis qu'elle m'exprimait en quelques mots formalistes sa surprise de me voir. Lorsque l'enfant se jeta dans mes bras, elle s'écria d'un ton irrité « N'ennuyez pas, Monsieur Germaine !» Je pris une chaise avec la petite fille sur mes genoux. Madame Van Brandt s'assit elle-même à quelque distance de moi. « Il est inutile, je suppose, de vous demander si vous connaissez ce qui est arrivé, » dit-elle en pâlissant aussi subitement qu'elle avait rougi et en tenant ses yeux obstinément fixés sur le sol. Avant que je puisse répondre, l'enfant m'annonça gaiement la disparition de son père. « Mon autre papa s'est sauvé. Mon autre papa a volé de l'argent. » « Il est temps que j'en ai un nouveau, n'est-ce pas ?» Et elle posa ses bras autour de mon cou. « Et maintenant, je l'ai » cria-t-elle de sa voix la plus aiguë. La mère nous regarda. Pendant quelque temps, la fière et sensible femme lutta avec succès contre elle-même. Mais l'angoisse qui la torturait ne pouvait être endurée en silence. Elle jeta un cri de douleur étouffé et se cacha le visage entre ses mains. Vaincue par le sentiment de sa propre dégradation, elle était même honteuse de laisser voir ses larmes à l'homme qu'il aimait. Je descendis l'enfant de mes genoux. Il y avait dans le salon une seconde porte qui se trouvait ouverte. Elle me laissa voir une chambre à coucher et une chandelle allumée sur une table de toilette. « Allez jouer dans cette chambre, dis-je. J'ai besoin de parler à votre maman. » L'enfant fit la moue. Ma proposition ne paraissait pas la tenter. « Donnez-moi quelque chose pour jouer, » dit-elle. « Je suis fatiguée de mes joujoux. Laissez-moi voir ce que vous avez dans vos poches. » Ses petites mains agiles commencèrent à fureter dans les poches de mon habit. Je lui laissai prendre ce qu'elle voulut et j'obtins ainsi qu'elle se sauva dans l'autre chambre. Aussitôt qu'elle fut partie, je m'approchai de la pauvre mère et je m'assis près d'elle. « Envisagez la chose comme moi, lui dis-je. Maintenant qu'il vous a abandonné, il vous a laissé libre d'être à moi. » Elle leva immédiatement la tête. « Maintenant qu'il m'a abandonné, répondit-elle, je suis plus indigne de vous que jamais. « Pourquoi ? Lui demandai-je. « Pourquoi ? Répéta-t-elle avec colère. « Est-ce qu'une femme n'a pas atteint les abîmes les plus profonds de la dégradation lorsqu'elle a été abandonnée par un voleur ? il eût été vain d'essayer de la raisonner dans sa situation d'esprit actuelle. J'essayai d'attirer son attention sur un sujet moins pénible en lui parlant de l'étrange succession d'incidents qui m'avait conduit près d'elle pour la troisième fois. Elle m'arrêta dès le début avec un air de lassitude. « Il me paraît inutile de répéter ce que nous nous sommes dit les autres fois, » me répondit-elle. « Je comprends ce qui vous a conduite ici. Je vous suis apparue de nouveau dans un rêve, comme je l'avais fait déjà deux fois. » « Non, lui dis-je, non pas comme vous m'êtes apparu déjà deux fois. Cette fois-ci, je vous ai vu avec l'enfant à vos côtés. » Cette réponse la réveilla. Elle tressaillit et regarda vivement la porte de la chambre à coucher. « Ne parlez pas si haut, dit-elle, que l'enfant ne vous entende pas. Mon rêve, cette fois, m'a laissé une impression pénible dans l'esprit. L'enfant y est mêlé et je n'aime pas cela. Et puis, le lieu où j'ai rêvé que je vous voyais est associé à... » Elle s'arrêta en laissant sa phrase inachevée. « Je suis nerveuse et triste ce soir, reprit-elle, et je ne désire pas parler de cela. Et cependant, j'aimerais à savoir si vous étiez réellement dans ce cottage plutôt que dans tout autre lieu du monde. » Je ne pus comprendre l'embarras qu'elle parut éprouver à m'adresser cette question. Il n'y avait rien de bien étonnant, selon moi, dans la découverte qu'elle eût été dans le Suffolk et qu'elle connût Greenwaterbroad. Le lac était célèbre dans tout le comté comme un rendez-vous favori des parties de campagne et le joli cottage de Dermody était un des attraits populaires du lieu. Ce qui me surprit réellement fut de voir clairement que quelque pénible souvenir s'attachasse pour elle à mon ancienne demeure. Je résolus de répondre à sa question dans des termes qui pussent l'encourager à m'admettre dans sa confidence. Un moment de plus et j'allais lui dire que mon enfance s'était passée à Greenwaterbroad. Un instant de plus et nous nous serions reconnus l'un l'autre lorsqu'une triviale interruption suspendit mes paroles sur mes lèvres. L'enfant accourut de la chambre à coucher avec une clé de forme bizarre à la main. « Qu'est-ce que cela ? » demanda-t-elle en s'approchant de moi. « Ma clé, » répondis-je en reconnaissant un des objets qu'elle avait tiré de ma poche. « Qu'est-ce qu'elle ouvre ? » ?»« La porte de ma cabine à bord de mon bâtiment. »« Conduisez-moi à votre bâtiment !» Sa mère s'interposa. Une nouvelle discussion s'engagea sur la question d'aller ou non se coucher. Lorsque la petite créature nous eut quittés avec la permission de jouer encore quelques minutes, la conversation entre Madame Van Vant et moi avait pris une nouvelle direction. En causant maintenant de la santé de l'enfant, nous fûmes naturellement amenés à traiter le sujet de ses relations avec le rêve de sa mère. Elle avait eu la fièvre, reprit Madame Van Brandt, et elle se trouvait justement mieux le jour où je fus abandonnée dans ce misérable lieu. Vers le soir, elle eut une nouvelle attaque qui m'effraya horriblement. Elle devint complètement insensible et ses petits membres étaient roides et glacés. Il y a ici un médecin qui n'a pas encore quitté la ville. Nécessairement, je l'envoyais chercher. Il attribua son insensibilité à une espèce de crise cataleptique. En même temps, il me rassura en m'assurant qu'il n'y avait pas de danger de mort immédiat et il me laissa certains remèdes à lui donner s'il survenait de certains symptômes. Je la mis au lit et je la serrai contre moi dans la pensée de la réchauffer. Sans croire au mesmérisme, pensez-vous admissible que nous ayons pu exercer l'une sur l'autre quelque influence qui puisse expliquer ce qui suivit ? Parfaitement. En même temps, la doctrine mesmérienne, si vous pouvez y croire, pousserait l'explication encore plus loin. Le mesmérisme affirmerait non seulement que vous avez agi l'une sur l'autre, vous et l'enfant, mais qu'en dépit de la distance, vous avez agi toutes les deux sur moi. Et de cette manière, le mesmérisme présenterait ma vision comme le résultat nécessaire d'une sympathie hautement développée entre nous. Dites-moi, vous êtes-vous endormi avec l'enfant dans les bras ? Oui, j'étais complètement là si je m'endormis, malgré ma résolution de veiller toute la nuit. dans ma misérable situation, abandonnée dans un lieu étranger, avec une enfant malade, je rêvais de vous de nouveau, et je m'adressais encore à vous comme à mon unique protecteur et ami. La seule chose nouvelle dans mon rêve fut que je pensais avoir l'enfant avec moi lorsque je m'approchais de vous, et que ce fut elle qui m'inspira les mots que j'écrivis sur votre portefeuille. Vous les avez vus, je suppose, et ils ont, sans doute, disparu lorsque je m'éveillais. Je trouvai ma petite chérie encore étendue comme une morte dans mes bras. Pendant toute la nuit, il ne se produisit aucun changement en elle. Elle ne recouvra ses sens que le lendemain dans l'après-midi. Pourquoi tressaillez-vous? Qu'ai-je dit qui vous surprenne? J'avais une excellente raison pour tressaillir et pour le laisser voir. Le jour, et à l'heure même où l'enfant était revenu à elle, je me trouvais sur le pont du navire et j'avais vu son apparition disparaître de mes yeux. « A-t-elle dit quelque chose lorsqu'elle eut recouvré ses sens ?» demandai-je. « Oui, elle aussi avait rêvé et rêvé qu'elle était avec vous. Elle me dit « Il vient nous voir, maman, et je lui ai indiqué le chemin. » Je lui demandai où elle vous avait vu. Elle me parla confusément de plusieurs endroits. Elle me parla d'arbres, d'un cottage et d'un lac, puis de champs, de haies et de chemins isolés, puis d'une voiture et de chevaux et d'une longue route blanche, puis de rues populeuses et de maisons et d'une rivière et d'un navire. Quant à ces derniers objets, il n'y avait rien de bien extraordinaire dans ce qu'elle me disait. Les maisons, la rivière et le navire qu'elle avait vus dans son rêve, elle les avait vus en réalité lorsque nous l'avions amenée de Londres à Rotterdam en venant ici. Mais quant aux autres lieux et particulièrement au cottage et au lac, tel qu'elle me le décrivait, je ne puis que supposer que son rêve était un reflet du mien. J'avais rêvé du cottage et du lac tels que je les avais connus il y a des années, et Dieu seul sait pourquoi je vous avais associé à eux. Mais ne revenons pas là-dessus maintenant. Je ne sais quelle infatuation me pousse à bavarder ainsi de vieux souvenirs qui m'affectent douloureusement dans ma position actuelle. Nous causions de la santé de l'enfant. Revenons-y. Il n'était pas facile de revenir à la santé de son enfant. Elle avait réveillé ma curiosité au sujet de ses souvenirs de Greenwater Broad. La petite fille jouait toujours tranquillement dans la chambre à coucher. Une seconde occasion d'interroger Madame Van Brandt se présentait. Je la saisis. « Je ne veux pas vous affliger, dis-je. Je vous demande seulement la permission, avant de changer de sujet de conversation, de vous adresser une question relativement au cottage et au lac. » La fatalité qui nous poursuivait voulut qu'à son tour, elle devint un obstacle à notre reconnaissance mutuelle. « Je ne puis rien vous dire de plus cette nuit, » répliqua-t-elle en se levant avec impatience. « Il est temps de coucher l'enfant, et d'ailleurs, je ne puis parler de choses qui m'affligent. Vous voudrez bien attendre le moment, s'il vient jamais, où je serai plus calme et plus heureuse qu'à présent. » Elle se retourna pour entrer dans la chambre à coucher. Agissant, tête baissée, sous l'impulsion du moment, je lui pris la main et je l'arrêtai. « Vous n'avez qu'à parler, dis-je, et le calme et le bonheur sont vôtres à l'instant. »« Sont miens ? » répéta-t-elle. « Que voulez-vous dire ?»« Dites un mot, » répliquai-je, « et vous avez, vous et votre enfant, un asile et un avenir devant vous. » Elle me regarda, à moitié éperdue, à moitié irritée. « Est-ce que vous m'offrez votre protection ? » demanda-t-elle. « Je vous offre la protection d'un époux, » répondis-je. « Je vous demande de devenir ma femme. » Elle avança d'un pas vers moi en tenant ses yeux rivés sur les miens. « Vous ignorez évidemment ce qui est réellement arrivé, » dit-elle, « et pourtant, Dieu sait que l'enfant a parlé assez clairement. » « L'enfant, » répondis-je, « ne m'a appris que ce que je savais déjà en venant ici. »« Toute la vérité ? » ?»« Toute la vérité. » »« Et vous voulez encore m'épouser ?» Je ne puis imaginer de plus grand bonheur que de vous prendre pour femme. Sachant ce que vous savez maintenant, sachant ce que je sais maintenant, je vous demande avec confiance de m'accorder votre main. Quelque titre que cet homme ait pu jadis avoir sur vous, comme père de votre enfant, il l'a maintenant perdu par son infâme abandon. Dans le vrai sens du mot, ma chérie, vous êtes libre. Nous avons assez souffert dans notre vie. Le bonheur est enfin à notre portée. Venez à moi et dites oui. » J'essayai de la prendre dans mes bras. Elle se recula comme si je l'avais effrayée. « Jamais !» dit-elle avec fermeté. Je baissai la voix pour que l'enfant ne pût nous entendre dans la chambre voisine. « Vous m'avez dit jadis que vous m'aimiez. »«
Je vous aime. » »«
Aussi chèrement que jamais. » »«
Plus chèrement que jamais. » »«
Embrassez-moi. » Elle céda machinalement et m'embrassa avec des lèvres glacées et de grosses larmes dans les yeux. « Vous ne m'aimez pas, » m'écriai-je avec colère, « vous m'embrassez comme par devoir. Vos lèvres sont froides, votre cœur est glacé. Vous ne m'aimez pas. » Elle me regarda tristement avec un patient sourire. « L'un de nous doit se rappeler la différence qui existe entre votre position et la mienne, » dit-elle. « Vous êtes un homme d'un honneur sans tache qui occupe un rang incontesté dans le monde. Et que suis-je, moi ? Je suis la maîtresse abandonnée d'un voleur. L'un de nous doit s'en souvenir. Vous l'avez généreusement oublié. Je dois me le rappeler. Je ne crains pas de dire que je suis froide. La souffrance me produit toujours cet effet et, je l'avoue, je souffre en ce moment. » Je l'aimais trop passionnément pour éprouver la sympathie sur laquelle elle comptait évidemment en m'adressant ses paroles. Un homme peut respecter les scrupules d'une femme lorsqu'ils se traduisent silencieusement par ses regards et par ses larmes. Mais leur expression formelle en paroles ne fait que l'irriter ou l'ennuyer. « À qui la faute si vous souffrez ? » répliquai-je froidement. « Je vous demande de rendre heureuse mon existence et la vôtre. » « Vous êtes une femme cruellement outragée, mais vous n'êtes pas une femme dégradée. Vous êtes digne d'être ma femme et je suis prêt à le déclarer publiquement. Revenez avec moi en Angleterre, mon bâtiment vous attend. » Elle tomba sur une chaise et ses mains glissèrent inanimées sur ses genoux.
« Quelle cruauté » murmura-t-elle, « quelle cruauté que de me tenter !»
Elle attendit un peu et recouvra sa fatale fermeté.
« Non, dit-elle, dussé-je en mourir, je refuse encore de vous déshonorer. Quittez-moi, monsieur Germaine, vous pouvez encore me rendre ce service. Pour l'amour de Dieu, quittez-moi !»
Je fis un dernier appel à sa tendresse. « Savez-vous ce que sera ma vie sans vous ? Lui demandai-je. « Ma mère est morte. » Il ne me reste plus dans ce monde d'autres créatures vivantes à aimer que vous. Et vous me demandez de vous quitter ? Où irai-je ? Que ferai-je ? Vous parlez de cruauté ? N'en est-ce pas une que de sacrifier le bonheur de ma vie à un misérable scrupule de délicatesse, à une crainte absurde de l'opinion du monde ? Je vous aime et vous m'aimez. Toute autre considération ne vaut pas un fétu. « Revenez avec moi en Angleterre, venez et soyez ma femme. » Elle tomba sur ses genoux et, saisissant ma main, elle la porta silencieusement à ses lèvres. J'essayai de la relever. Ce fut inutile, elle me résista obstinément. « Cela signifie-t-il non ? » lui demandai-je.
« Cela signifie, dit-elle d'une voix faible et brisée, que je prise plus votre honneur que mon bonheur. Si je vous épousais, votre carrière serait brisée par votre femme et un jour viendrait où vous me le reprocheriez. Je puis souffrir, je puis mourir, mais je ne puis envisager une pareille perspective. Pardonnez-moi et oubliez-moi. Je ne puis en dire davantage. »
Elle abandonna ma main et tomba étendue sur le sol. Le désespoir suprême de cet acte m'avertit plus éloquemment que les paroles qu'elle venait de prononcer que sa résolution était inébranlable. Elle s'était délibérément séparée de moi. Son attitude nous avait séparés pour toujours.